Chers auditeurs, après ces musiques classiques, ces musiques de chambre et ces recettes de boudin cuit, nous retrouvons les nouvelles de Radio Grouga.
Radio Grouga, la radio qu'elle est chouette à écouter.
And now it's time for Grouga Radio.
Maintenant, Radio Grouga.
Radio Grouga.
And now Grouga
Radio. Radio Grouga.
Grouga Radio.
In direct live, you're listening to Grouga Radio.
Et maintenant, Radio Grouga.
Bien, bonjour à toutes et tous. Nous sommes en compagnie d'un nouveau venu, on va dire, dans le domaine dans lequel il se lance. C'est Emmanuel Beltrando. Bonjour Emmanuel.
Bonjour.
Alors Emmanuel est connu pour, un jeu qui s'appelait Heroica, qui a été lancé en 2007, au début 2008, on va dire.
Oui, je crois que c'est ça, 2006 ou 2007. Ouais.
Donc cette logique-là, donc auteur de jeu, tu avais déjà des activités dans le monde du jeu, et puis maintenant on te ressent un petit peu à ton compte, t'as lancé ton site internet qui s'appelle MoonsteryGames.com, et puis on parle d'édition ou d'auto-édition, je ne sais pas vraiment. Donc c'est pour ça qu'on se rend compte, je veux dire, éclaircissons un peu l'affaire.
Alors pour éclaircir un peu l'affaire, effectivement, je me suis mis à mon compte depuis quelques mois. J'ai ouvert un blog qui me permet de parler un peu de tout, de rien, en restant dans le monde ludique. Et mon cœur d'activité depuis quelques mois a été de trouver des jeux auprès de jeunes auteurs ou d'auteurs confirmés et d'essayer de les modeler de façon à pouvoir les présenter aux éditeurs qu'il faut par rapport à la gamme qu'il faut. Et dans cette démarche, j'ai reçu beaucoup de protos, j'ai rencontré beaucoup d'auteurs. Et début août, j'ai été contacté par un auteur étranger qui m'a présenté les règles d'un proto qui m'ont tellement séduite que je me suis dit ce jeu-là, je ne vais pas le présenter, je vais essayer de l'éditer. Donc j'ai un petit peu regardé à droite et à gauche comment c'était faisable ou pas faisable, est-ce que je pouvais y arriver tout seul ou pas tout seul. Et au final, j'ai trouvé des soutiens, des gens qui vont m'aider dans l'édition pour le faire. Et donc, je me lance dans l'édition pour fin 2010, parce que pour le coup, j'ai pas de pression de temps ni quoi que ce soit, donc je veux vraiment passer le temps nécessaire à tester le jeu, à être sûr d'avoir la bonne mécanique, le bon gameplay et le bon thème, parce que le thème est encore sujet à changer.
Ok, alors se lancer dans l'édition, c'est pas une petite chose, donc effectivement il faut avoir des contacts, donc apparemment tu les as trouvés. Maintenant, est-ce qu'on peut regarder un peu ce que c'est exactement le jeu? L'auteur vient de l'autre côté du monde, si j'ai bien compris?
Oui, l'auteur vient de vient du Japon. C'est un jeune auteur qui est mineur. Donc c'est l'histoire de la rencontre est assez exceptionnelle. C'est suite à un article que j'avais fait sur Susumi Kawasaki sur le blog.
Qui est l'auteur de Robotori.
Qui est l'auteur entre autres de Robotori et de plein de très très bons jeux. Et donc il m'a présenté un jeu qui, je dirais, à la base était un bon mélange de Race for the Galaxy et de Magic. Parce que chaque joueur se forme un tableau d'armée, en fait, avec des règles de pose assez simples, mais à la fois suffisamment stratégiques pour obliger beaucoup de choix de jeu. Et une fois que les unités sont posées, si on reste sur un univers médiéval fantastique, ces unités ont des pouvoirs plus ou moins similaires aux pouvoirs qu'on peut retrouver dans certaines cartes de Magic. Voilà, donc c'était vraiment un mélange des deux, qui se joue de 2 à 4 joueurs. Ce que j'aimais beaucoup, c'est que l'explication des règles de ce jeu-là, c'est 3 minutes. Et aujourd'hui, je m'oriente, que ce soit pour les jeux que je voudrais éditer ou pour les jeux que je présente aux éditeurs, sur des jeux dont l'explication des règles n'excède jamais 5 minutes. Parce que je pense que le public est de plus en plus large et qu'on est obligé de s'adapter avec des règles simples, rapides. Et là, j'ai trouvé à travers ce jeu-là un jeu qui me plaisait, des règles très simples et une énorme richesse une fois dans la partie, parce que toutes les cartes offrent beaucoup de combinaisons. Et donc finalement les combinaisons une fois dans la partie sont très très nombreuses.
Ça veut dire que le côté Race for the Galaxy, il y a un côté construction de deck, il y a un côté plateau, il y a un côté magic, c'est ça en fait?
Voilà, alors en fait le paquet fait 100 cartes. Il y a deux possibilités de jouer. La possibilité commune, c'est de jouer avec le même paquet pour tout le monde, comme Race. Donc on pioche des cartes au départ. Ensuite il n'y a pas de pioche automatique à chaque tour, c'est l'activation. Donc on a des cartes en main. Il y a des règles pour les poser, c'est un jeu pyramidal, c'est-à-dire qu'en fait, il y a 3 niveaux de cartes, et chaque niveau, pour poser des cartes de plus en plus fortes, ont une règle différente, mais qui n'est pas contraignante, c'est-à-dire que c'est juste des choix à faire. On peut, en fait, plus on va s'offrir de choix différents dans les types de stratégies de cartes, plus elles vont nous coûter cher à poser. Par contre, si on veut partir sur une stratégie pure et dure dans une même, entre guillemets, couleur, là, ça va coûter très peu cher. Donc en fait, le Jack of the Trade va coûter énormément d'argent, mais va offrir beaucoup plus de choix. Et effectivement, après, les cartes, une fois en jeu, soit elles ont un pouvoir dit de come into play, donc un pouvoir qui se déclenche lorsqu'elles arrivent en jeu, soit elles ont un pouvoir d'activation, parce que comme à Agricola, on a des pions d'activation qu'on peut poser sur les cartes pendant son tour pour activer un pouvoir. Qui peut avoir d'ailleurs des prérequis pour équilibrer un petit peu ces pouvoirs-là. Quoi.
Donc riche et donc beaucoup de travail de développement selon toi ?
L'auteur m'a présenté un jeu qui était selon lui quasiment fini. C'était suffisamment fini pour me plaire. Simplement, avec le recul qu'on a, avec les gens avec qui je teste, etc., le jeu était un tout petit peu trop complexe et manquait un petit peu de trois petites choses. Donc là, on est en train depuis début août de le régler, de continuer à régler, et on se donne jusqu'à fin décembre voire début janvier pour arriver à quelque chose de bien, sachant que le gros doute qu'on a aujourd'hui n'est pas vraiment sur le jeu, parce que c'est du réglage, hein, on a changé deux trois choses, mais c'est sur le thème, parce que vu que c'est un joueur de Magic, nous l'a présenté sur un thème médiéval fantastique à la Magic. Simplement, je pense que pour se démarquer du lot, faire de médiéval fantastique, c'est un peu dur. Il y a énormément de jeux qui sortent, on le voit cette année à Essen. Donc, il y a une grosse réflexion sur quel thème on va choisir. On n'est vraiment pas arrêté pour l'instant.
La réflexion que tu fais sur le fait de... Le public s'élargit et il faut des jeux qui s'expliquent en moins de 5 minutes. C'est là que le jeu de société est, selon toi ?
Ah, c'est là où, en tout cas, il arrive, hein, parce qu'on voit qu'il y a de plus en plus de sorties. Mais malgré tout, les jeux continuent à se vendre, donc ça veut dire qu'il y a de plus en plus de joueurs. Il y a beaucoup de gens qui découvrent le jeu aujourd'hui via Time's Up ou enfin des jeux un peu plus d'ambiance et qui veulent passer à autre chose. Ces gens-là, on ne peut pas leur dire tiens, je vais t'expliquer diplomatie. C'est pas possible. Donc il faut leur expliquer un jeu simple, rapide, intelligent. Et l'autre chose, c'est qu'il y a de plus en plus de joueurs qui se créent également via les conventions ou via un ami. Et je pense sincèrement que le temps d'attention maximum d'un joueur qui apprend un jeu, c'est 5 minutes. C'est-à-dire qu'un joueur qui n'a pas l'habitude, un casual, va écouter les règles 5 minutes et va jouer. Si on lui dit, bon, il y a une demi-heure d'explication de règles, je pense qu'on l'a perdu avant. Quoi.
Donc ça veut dire qu'on pourrait, dans un temps assez proche, avoir du gros jeu avec une jouabilité sans cesse renouvelée, mais avec des règles faciles à expliquer.
Pour moi, l'avenir du jeu de société, il est très simple. C'est alors, du jeu, qu'importe la taille, peut-être pas qu'importe le prix, parce que si on veut s'élargir au public, il faut que le prix reste raisonnable. Mais ma vision du jeu de société pour demain, c'est un jeu où effectivement les règles s'expliquent en moins de 5 minutes, mais qu'ensuite la richesse du jeu dans la partie fait que les possibilités sont nombreuses et riches. Et donc réussir à faire l'équilibre entre des règles simples et un jeu très riche derrière, pour moi, c'est l'avenir du jeu. Et c'est ce qu'a réussi à faire ce jeune auteur, et, avec un jeu avec des règles simples et une fois dans le jeu, des possibilités presque infinies. Quoi.
Ça veut dire que les auteurs semblent s'orienter aussi vers cette réflexion-là, puisque c'est eux qui sont à la base.
Après, ça reste juste mon avis. Hein. Je ne vais pas dire que les auteurs doivent faire ça, mais je pense que pour l'avenir du jeu de société, pour le développement, c'est très personnel, mais il faut s'orienter vers ce type de jeu-là, oui, c'est sûr.
Ok, Emmanuel Beltrando, on te retrouve sur moonstergames.com et on se revoit à la sortie du fameux jeu dont on ne connaît pas le nom, ni le thème.
Non, ni le nom, ni le thème pour l'instant, mais ça devrait arriver bientôt.
Voilà, merci, à bientôt.
Merci beaucoup à vous.
Merci de votre audience. Merci, chers auditeurs. Et retrouvez d'autres podcasts consacrés aux jeux de société sur le site internet www.boitecast.net.
Radio Gruga, c'est bien.